Mais c'est important ce dont on va se parler. Les organismes de défense de droits demandent au gouvernement du Québec de prioriser la vaccination des personnes en situation de handicap. Le début de la pandémie, il y a déjà un an, avait forcé les autorités publiques à prendre des mesures difficiles, contraignantes, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de choix de société à faire. Et puis maintenant qu'on est rendu dans le versant vaccination, là aussi, il y a des choix de société à faire, puis il y a des questions de santé publique qui suscitent un débat. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Mme Véronique Vézina, qui est directrice par intérim de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COFAN. Et vous me permettrez de rompre avec l'étiquette habituelle de la radiophonie et je vais tutoyer Mme Vézina car je la connais bien. Bonjour Véronique, comment vas-tu?
Bonjour François, ça va très bien, merci.
Je te remercie beaucoup. La Confédération des organismes, que tout le monde connaît plutôt sous le nom de COFAN, a fait une déclaration, a publié une lettre ouverte au premier ministre la semaine dernière.
En fait, on est en action depuis près de 2 semaines avec 4 autres organismes de défense de droits. On a fait un communiqué de presse, on a publié une lettre ouverte, on s'est adressé directement aux autorités de la santé publique et du ministère de la Santé. Et on a fait une conférence de presse la semaine dernière pour demander s'il y a une vaccination pour les personnes en situation de handicap et les personnes ayant des problèmes de santé mentale de façon prioritaire parce que plusieurs d'entre elles sont soit à risque d'avoir des complications graves et même de décéder de la COVID et d'autres sont plus à risque de le contracter.
Parce que c'est pas que juste une question de mobilisation aussi, il y a une question de voir quelle est la réponse des autorités. Jusqu'à maintenant, on voit d'autres régions, d'autres provinces du Canada, il y a des pays où, et même l'Organisation mondiale de la santé qui ont identifié que les personnes qui vivent en situation de handicap sont une population vulnérable, puis au Québec, ça n'a pas bougé.
Au Québec, ça n'a pas bougé encore. Bien, je vous dirais que ça a commencé à bouger. On a appris la semaine dernière, suite aux différentes représentations qu'on avait faites, qu'on avait déjà ouvert la porte là, pour vacciner les personnes qui ont une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, qui avaient des soins à domicile, un nombre d'heures important qu'ils n'étaient pas en mesure de sortir de leur domicile. Leur vaccination a déjà été autorisée dans la dernière semaine et celles-ci vont toutes être vaccinées d'ici le 2 avril. Par contre, on s'attend à avoir d'autres nouvelles positives là, suite aux demandes qu'on a faites depuis 2 semaines pour d'autres personnes handicapées qui, eux aussi, là, devraient être vaccinées de façon prioritaire. On n'a pas de confirmation, mais on a espoir que le gouvernement a bien entendu notre message et que pour une fois, on devrait faire partie ou du moins une partie des personnes handicapées devraient faire partie des personnes qui vont être vaccinées en priorité après les gens de 70 ans et plus.
Parce que je pense qu'entre autres, les personnes trisomiques, physiologiquement, ils sont très sensibles aux maladies respiratoires. Puis ils sont, même s'ils ont une vie autonome, physiquement, ils sont des personnes qui peuvent être jeunes, mais vulnérables à une maladie du type de la COVID.
Oui, bien sûr, la trisomie 21 est un bel exemple de personnes à risque qui peuvent être à risque, notamment parce que souvent, ce sont des personnes qui développent ou qui ont dès leur naissance des problèmes pulmonaires et ou cardiaques. C'est des gens aussi qui ont un vieillissement prématuré. Donc, à l'âge de 40-50 ans, bien, leur état physiologique est le même que pour une personne de 80 ans. Donc, tout comme les aînés, là, elles deviennent plus à risque de contracter la COVID. Et c'est des gens aussi qui ont besoin de beaucoup de soutien dans leur quotidien et qui ont de la difficulté à respecter les mesures sanitaires. Donc, elles se mettent à risque de la contracter de façon plus importante à cause qu'elles ne respectent pas les règles. Mais il n'y a pas juste les personnes trisomiques qui sont à risque. On parle aussi des gens qui ont des spina bifida, une dystrophie musculaire, la sclérose en plaques et même la SLA ou les personnes de petite taille. Là, ça peut être des gens qui sont très à risque à cause que leur physiologie et leur système physiologique même les rend plus vulnérables si elles contractent la COVID parce que souvent, elles ont déjà un espace restreint pour leur système pulmonaire et cardiaque ou un système qui est affaibli au niveau de l'immunité.
C'est d'autant... Et on a vu d'ailleurs dans d'autres pays et dans d'autres provinces que ces groupes-là avaient déjà été identifiés comme devant être une priorité. J'ai lu hier une lettre ouverte écrite par M. François Morin au Journal de Montréal qui parlait de ses deux filles qui sont des jeunes femmes ou jeunes adultes ou, qui sont en mobilité réduite et qui sont faites presque répondre du tac au tac par des gens du gouvernement que, comme elles sont jeunes, elles ne seront vaccinées qu'en décembre. Est-ce que j'ai bien lu ou c'est une situation qui existe?
Bien, pour l'instant, c'est quelque chose qui est possible si on continue de fonctionner en fonction de l'âge. Là. Mm-hmm. Plus les gens sont jeunes, plus ils vont être vaccinés tard. Par contre, le comité d'immunisation du Québec a clairement dit la semaine dernière qu'il déposerait là, très rapidement au ministère une révision de la priorité dans la vaccination pour intégrer certains groupes qui sont aussi vulnérables plus tôt dans l'ordre de priorité. Donc, c'est sur ça qu'on mise actuellement là, pour voir des gens comme les deux jeunes filles de ce monsieur-là pouvoir être aussi dans le niveau de priorité, pouvoir être vaccinés plus tôt.
Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont quotidiennement en contact avec une personne en situation de handicap qui peut être un aidant naturel, ainsi de suite. Alors, ces personnes-là aussi sont à risque.
Ces personnes-là sont à risque ou souvent sont confinées chez elles de façon importante mm-hmm. pour ne pas infecter les personnes avec qui elles vivent. Si on se fie sur l'ouverture qu'il y a eu la semaine dernière pour les personnes qui vivent à domicile et qui ne peuvent pas sortir de leur domicile, on a autorisé aussi à vacciner un proche. C'est sûr que ça vaccine pas toute la famille autour, mais au moins... ça permet d'avoir une personne là, qui est proche de la personne, qui lui apporte du soutien, qui va pouvoir aussi être vaccinée et s'assurer ainsi de réduire les risques de complications là, si elle contracte mm-hmm. la COVID.
D'accord. Et il y avait déjà eu une vaccination dans les CHSLD ou dans des foyers. Est-ce qu'il y a des milieux de vie comme ça qui ont déjà été couverts par la vaccination?
Pour l'instant, non. Ça fait partie des revendications. On pense aux gens qui sont en ressources intermédiaires ou en mm-hmm. ressources de type familial. Pour l'instant, seulement les gens de 70 ans et plus qui vivent dans ces milieux-là ont été vaccinés. Et parmi nos revendications, bien, on vise aussi là, les gens qui vivent dans ces milieux-là pour s'assurer qu'ils soient vaccinés de façon prioritaire, notamment parce qu'ils vivent en groupe.
Mm-hmm. Oui, et à ce moment-là, une éclosion deviendrait vraiment catastrophique parce que là, on pourrait avoir... pas un cas qui fait surface, là, mais il pourrait y en avoir 10.
Non, selon le type, le milieu.
Oui, exact.
Souvent, il y a même jusqu'à une vingtaine de personnes là,
exact.
Dans ces types de résidences-là.
Mm-hmm. Et puis, s'il y a quelqu'un qui est un aidant ou une aidante à l'intérieur de ce milieu de vie-là, cette personne-là peut aussi bien devenir attraper le virus, devenir contagieuse, rentrer chez elle. Puis là, ça essaime un peu partout. Là. C'est assez évident qu'il faille intervenir.
C'est même très évident. Puis surtout qu'il y a certains milieux où les gens sont complètement isolés. Là. Quand elles sortent, elles sont isolées par la suite dans leur chambre pendant 14 jours. Surtout si elles ont accès, c'est pas juste une sortie extérieure, mais qu'elles ont des contacts, par exemple, avec un membre de leur famille. Donc, c'est pas juste le risque de contagion, mais c'est tout l'isolement qui vient autour des personnes qui vivent dans ces groupes-là. On les isole très, très rapidement pour éviter qu'elles se contaminent entre elles. Donc, ça devient parfois difficile, ça crée des troubles de désorganisation. Certains même ont été jusqu'à se mutiler. Là, ils ne comprennent mm-hmm. pas ce qui se passe toujours. Donc,
oui.
C'est très difficile pour elles. Ce qu'on sait actuellement, c'est que ce qu'on demande actuellement, c'est que les personnes soient vaccinées. Par contre, on est loin d'être sûr. Là, si on se fie à ce qui s'est fait pour les aînés, les proches des aînés et les travailleurs de ces résidences-là n'ont pas été vaccinés en même temps que les aînés. Pour l'instant, seuls les aînés de ce type de milieu-là ont été vaccinés.
D'accord. Ça va être important, donc, parce que le gouvernement peut certainement prêter une oreille sympathique à vos revendications, mais il faut encore que ce soit d'une façon suffisamment complète pour pas qu'on crée un problème, parce qu'il va y avoir d'autres groupes qui commencent à se mettre dans la société en général, qui se manifestent pour avoir droit à une vaccination plus rapide. Je voyais ce matin les gens dans le domaine de l'enseignement, parce qu'elles sont aussi vulnérables, parce qu'elles font...
Oui.
Ils travaillent dans des groupes qui viennent de 30 bulles familiales différentes. Alors, c'est certain que là, il y a un danger et je ne minimise pas leurs inquiétudes, au contraire. Mais c'est normal à ce moment-ci que tout le monde dise, ben, de par mon travail ou de par ma situation aussi, je risque de me faire... je suis un risque plus élevé que la moyenne de contracter la COVID-19. Et dans ce sens-là, les personnes handicapées, on se retrouve comme étant un de d'autres groupes. Puis le nombre de vaccins disponibles n'est pas exponentiel. Là. Il faut faire des choix. Est-ce que ça semble vouloir continuer à être par une régionalisation? Est-ce que vous avez appris ça? Ou ça va être par type de situation d'handicap?
Ben, ça va être vraiment par régionalisation, là, comme ça. C'est sûr que le ministère et la Santé publique donnent une directive générale et après ça, dans chacune des régions, si c'est l'établissement, le CIS ou le CIUS qui va déterminer en fonction de où il est rendu dans sa vaccination, à quel moment ça va avoir lieu. Mais ce qui est important à dire, c'est que moi, je ne voudrais pas être dans le comité d'immunisation du Québec actuellement d'avoir à faire des choix. C'est sûr que les choix ne seront pas faits sur la base de la sympathie, ils vont être vraiment faits sur la base de données scientifiques. Donc, parce qu'on sait, là, tu l'as dit, il y a énormément de groupes actuellement qui demandent à être vaccinés en priorité. Selon le président du comité d'immunisation du Québec, la semaine dernière, il disait que certaines personnes qui vivent avec certaines maladies ou certaines problématiques devraient être priorisées. C'est l'avis qui devrait être soumis au ministère et c'est ensuite le ministre qui va trancher sur les recommandations qui sont faites et comment elles vont s'appliquer. Mais en bout de ligne, ça peut arriver que, par exemple, à Montréal, les gens soient vaccinés.
Oui, ça pourrait fonctionner différemment, tout à fait. Mais je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Véronique. C'est tout le temps qui nous reste. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup à toi. Au revoir.
Merci.